Bonsoir à tous. Le projet de budget pour l'exercice 2016, tel que présenté par le Premier ministre Matata Ponyo, a été jugé recevable par les députés cette semaine. Il a été transmis à la Commission économique et financière pour examen approfondi, décryptage dans près d'un quart d'heure. Et puis, dans l'actualité de cette semaine, le président de la République a nommé jeudi soir, hier donc, des commissaires spéciaux et leurs adjoints chargés d'administrer provisoirement les nouvelles provinces. Leurs noms ont été rendus publics par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale. Nous en saurons davantage dans cette émission. Ce sont là les deux thèmes de la tribune de presse de ce vendredi 30 octobre 2015. Et les invités dans ce studio, je reçois Félix Kabouizi, journaliste au quotidien La Référence Plus, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Félix, bonsoir. Jean-Pierre Kaembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, une télévision qui émet à Kinshasa. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir à l'aîné Félix et bonsoir à l'ensemble des auditeurs de Radio Capi.
Et puis Ali Boukassa, journaliste à la radio communautaire Toutanté, une radio qui émet à Mouenéditou dans l'ex-Kassai occidental. Ali Boukassa, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir à Jean-Pierre, bonsoir à mon aîné Kabouizi. Nous sommes à Mouenéditou, la première et la seule ville de la province de la Lomanie, dans l'Est-Kassai oriental.
Merci beaucoup Ali Boukassa pour cette précision et merci d'avoir choisi la tribune de presse pour mieux comprendre l'actualité de la RDC vue par les journalistes. Et pour commencer, voici la revue de presse qui porte la signature d'Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le projet de budget 2016 qui a été jugé recevable à l'Assemblée nationale. Dans sa une du jour, le quotidien Forum des As souligne que le débat autour du projet de loi de finances pour l'exercice 2016 tourne au duel entre le Premier ministre Matata Ponyo et le député de Lukula au Congo central Mbachi Mbacha. Dans sa réponse aux préoccupations exprimées par les députés, le Premier ministre a tenu à répondre point par point aux critiques émises lundi dernier par l'élu PPRD de Lukula dans le Congo central, rapporte le journal. Matata Ponyo a tenu entre autres à expliquer la relation entre la production ou le PIB réel et les recettes fiscales et non fiscales. C'est la précision et la pertinence avec lesquelles le Premier ministre a répondu à toutes les questions posées par l'élu de Lukula qui font dire au quotidien L'Observateur que Matata balaye Mbachi d'un revers de la main. Par ailleurs, le journal informe que le projet de budget 2016 a été déclaré recevable suite au débat à l'Assemblée nationale. Réponse du Premier ministre aux députés nationaux, Mbachi Mbacha, renvoyé aux études, renchérit la référence plus. Du berger à la bergère, Matata Ponyo a réservé une réplique farouche à l'ancien gouverneur du Congo central qui a fustigé les paradoxes de la croissance à la congolaise, relève le journal, qui ajoute que le projet de budget qui a été déclaré recevable par la plénière a été renvoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour d'éventuels amendements et améliorations. Parlons à présent de la nomination des commissaires spéciaux hier jeudi 29 octobre 2015. L'avenir titre découpage territorial. Les nouveaux commissaires spéciaux sont là. Et le quotidien va enchaîner que dans une ordonnance rendue publique hier lors du journal télévisé de la RTNC, le président de la République a nommé les commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du gouvernement. Le palmarès abonde dans le même sens que l'avenir et donne même les noms des commissaires spéciaux et leurs adjoints. Le potentiel quant à lui souligne nomination des commissaires spéciaux dans les provinces démembrées, Goïka Sanji et Alex Kandepas Bamani Sassout. Notez que parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, il y a notamment la publication du Doing Business 2016.
Merci beaucoup Alain Irung pour cette précision et dans l'actualité de la semaine, il y a aussi cette pétition qu'a lancée le président de l'ASBL dénommée Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Constant Mutamba estime que l'acceptation d'une nationalité multiple par la constitution congolaise est incontournable aujourd'hui pour l'émergence de la RDC. Il dit même avoir lancé une pétition pour obtenir le changement de principe de la nationalité unique consacrée dans la constitution congolaise. Alors Félix Kabouizi, comment vous avez accueilli cette initiative de Constant Mutamba?
Bon, je pense qu'il est en train de forcer sur une porte déjà ouverte. Je crois que depuis le dialogue de San City, les députés ont réaffirmé. Il est totalement inadmissible que nous nous gardions ce principe-là de la nation, plutôt de la nationalité une et exclusive. Je crois que ça s'est complètement dépassé. Et les députés ont déjà longuement débattu de cette question. Il ne reste probablement que la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce principe-là. Mm-hmm. Alors, il faut encourager notre jeune frère Constant Mutamba, parce que, effectivement, nos frères, hein, nos compatriotes qui sont à l'extérieur voudraient bien non seulement voter, mais ils voudraient également en même temps jouir, n'est-ce pas, de tous des avantages liés à la double nationalité.
Alors Jean-Pierre Kayembe, est-ce que cette initiative telle que saluée par Félix, est-ce qu'elle est opportune en ce moment où le Congolais ne veut pas que soit touchée la Constitution dans le contexte de la fièvre électorale?
Bon, je crois qu'il y a toujours une question sur l'opportunité de certaines actions posées par les uns et les autres, mais je crois que nous ne pouvons pas accepter que ces compatriotes qui vivent en dehors de nos frontières soient exclus de certaines opérations ou de certains actes qui se produisent au pays par le simple fait d'avoir voulu opter pour ces principes de la double nationalité. Mais je crois que la question relance encore le débat sur la révision constitutionnelle. D'après nos informations, la question
chose
pourrait...
Chose que ne veut pas entendre la population congolaise.
La population, je ne sais pas sur base de quel sondage vous les dites, mais est-il que la question pourrait s'inviter au prochain dialogue politique qui se prépare. On apprend que les travaux sont presque avancés, les travaux de pré-dialogue, que d'ici la mi-novembre, on pourrait convoquer ces forums. Et donc, c'est donc les lieux, le bien indiqué, le mieux indiqué pour que la question soit traitée et que les solutions y soient trouvées.
Alors, Ali Boukassa, vous êtes à Mweneditu, dans la province du Lomami, si je ne me trompe pas. Comment vous avez accueilli cette information pour l'émergence de la RDC?
Berry, encore une fois, de plus, merci de l'invitation. À Mweneditu, comment avons-nous accueilli cette démarche de notre compatriote Constant Mutamba avec sa nouvelle génération pour l'émergence du Congo? D'abord, c'est une initiative à saluer. Ça prouve qu'il y a une jeunesse qui monte, il y a une jeunesse qui peut proposer des idées pour la construction, la reconstruction de la RDC. Là où ça pêche, à mes yeux, c'est que le temps ne s'y prête pas. Aujourd'hui, quand lui parle beaucoup plus de l'ouverture, ouverture, il a omis ou il a évité de justesse le mot qui fâche, le mot qui est tabouisé aujourd'hui en RDC, c'est le mot révision. La révision, qu'elle soit d'une disposition constitutionnelle ou même de la constitution en soi, n'est pas autorisée, n'est pas acceptée de la majorité des Congolais aujourd'hui. Mmh. C'est qu'il pouvait même décaler cela, attendre que le temps passe, ou bien alors faire sortir, publier son ouvrage alors qu'on était loin de cette période que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour me résumer, c'est une bonne idée, mais elle n'arrive pas au bon moment, étant donné l'ambiance, l'atmosphère politique actuelle.
D'accord, l'idée n'arrive pas au bon moment, mais en même temps, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous à Mweneditu aujourd'hui?
À Mweneditu, Berry Franklin Luchaka, c'est que depuis bientôt 2 mois, la population ne ferme pas l'œil toute la nuit, parce que des cas de vol se signalent ça et là, la moyenne serait même un cas de vol la nuit, donc c'est ça la grande actualité en dehors de la reprise des activités ferroviaires ici à Mweneditu, parce que nous sommes une ville ferroviaire, avec l'acquisition de nouvelles locomotives du côté de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo. La ville de Mweneditu réside de s'étendre et l'on remarque que ça va quand même de ce côté en dehors de l'actualité qui est la nomination des commissaires spéciaux. Je crois que c'est l'une des thématiques l'on pourra y...
On va y revenir, bien sûr, on va y revenir. Une autre actualité de cette semaine, c'est la publication du dernier rapport d'une business 2016 de la Banque mondiale. La RDC se classe 184e sur 189 nations répertoriées et avance d'ailleurs de 3 rangs par rapport à 2015 où il occupait la 187e position. Le rapport note une bonne progression de la RDC dans deux domaines, notamment la création d'entreprises qui est devenue plus rapide et l'octroi de permis de construire, mais en revanche, le pays a encore des efforts à fournir en matière de raccordement à l'électricité, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires et le paiement des impôts et taxes. Alors, Félix Kabouizi, rapidement, comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport?
Bon, je pense que sur ce plan-là, le pays continue de traîner les pieds. Qu'on ait progressé de 2 ou 3 niveaux ne représente vraiment pas grand-chose. Il faudrait peut-être qu'on puisse vraiment accélérer dans ce processus-là d'assainissement du climat des affaires parce que, en fait, le développement doit être l'affaire des privés. Hein. Ce n'est pas l'État qui doit être le moteur du développement. Et pour que
l'État doit faciliter.
Il doit faciliter. Et pour cela, l'État a l'obligation justement d'assainir, de proposer des lois attractives, de proposer, si vous voulez, des modalités qui fassent que des investisseurs viennent, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils aient toutes les facilités voulues pour pouvoir investir, puisque l'argent ne viendra pas lorsqu'il n'y a pas de sécurité.
D'accord. Jean-Pierre, est-ce que vous partagez la même analyse que fait Félix?
Partiellement non, d'autant plus que ces nouveaux rapports mettent au grand jour les efforts fournis par le gouvernement de la République depuis tous ces temps. Je crois que ce classement est publié par une institution crédible. Déjà, le fait d'avancer des trois places, c'est un aspect, je vais dire, qu'il faut noter, qu'il faut apprécier à sa juste valeur. L'émergence, comme on le dit toujours, est un processus. Il ne vient pas par coup de baguette magique du jour au lendemain. C'est un processus qui peut s'étendre sur 10, 15, voire 20 ans. Donc, déjà qu'on avance, je crois que ça, il faut les saluer. Et je crois que l'avenir me semble, à mon avis, prometteur et que d'ici 2030, nous pourrions peut-être, qui sait, occuper... la troisième, pourquoi pas la dixième place.
Très optimiste en tout cas.
Alors, il faut l'être.
Ok. Alors, Ali Boukassa, est-ce que vous êtes aussi satisfait de ce classement de la Banque mondiale sur la RDC?
Tout à fait, Berry Franklin, parce que je suis congolais et quand on dit que mon pays a gagné 3 positions dans le classement d'une institution comme celle-ci, comme la Banque mondiale, il n'y a pas de quoi en passer. On doit féliciter, saluer cela. Quand même, il faut dire une chose, c'est que le gouvernement ne dorme pas sur son laurier parce que l'on a dit qu'il a gagné 3 places. Mais il faut pousser encore davantage pour que demain ou après-demain qu'on vienne en tête, qu'on arrive en tête. On a parlé de l'électricité. On sait que la République démocratique du Congo, c'est une force de ce côté-là, mais... le courant n'est pas consommé dans la République. Ici, on l'a dit tout depuis bientôt plus d'une décennie, on nous a laissé un cimetière de semaines et voilà que l'on rappelle qu'il faut qu'il y ait de l'électricité dans la population. Je crois que pour terminer, pour sortir de ce petit commentaire, c'est que c'est une très bonne chose que mon pays ait gagné ces 3 places.
D'accord. Alors, très rapidement, la dernière info de la semaine, c'est déjà demain, samedi, que va se jouer la finale aller de la Ligue des champions africaine entre le tout-puissant Mazembe et l'USM d'Alger. Quelle chance donnez-vous aux corbeaux congolais? Je commence par vous, Jean-Pierre. Rapidement.
Mazembe n'a pas droit à l'erreur. Mazembe n'a pas droit à l'erreur. Je crois que par rapport aux 3 dernières éditions, Mazembe s'est beaucoup distingué cette saison. Mazembe, les 3 dernières saisons, avait du mal à gagner à l'extérieur. Cette saison, l'équipe s'est distinguée, l'équipe est en forme, l'équipe a des joueurs qui évoluent ensemble depuis 3 ans, des joueurs qui sont pour la plupart des titulaires dans leurs équipes nationales. Mm-hmm. Je crois que les staffs techniques a même signé un contrat de performance. Donc tout ce que nous on attend, c'est une victoire d'abord à l'aller et une autre victoire au retour pour ce match qui se jouera à Lubumbashi, parce que tous les Lushois ou l'ensemble du peuple congolais, on attend que cette coupe nous revienne.
D'accord. Alors, Félix, vous êtes aussi à 100% pour les Congolais ?
Oui, bien entendu. Mais ces deux grands clubs africains qui s'affrontent, nous souhaitons évidemment que Mazembe puisse prendre pour la troisième fois consécutive, je crois. Troisième ou quatrième fois ?
La troisième fois.
Troisième fois. Alors, ce serait vraiment tout à l'honneur de la RDC.
Alors, Ali Boukassa, rapidement, quelle chance donnez-vous à la RDC ?
Il faut me fier aux propos de Carteron, le technicien français qui est entraîneur en même temps du club. C'est que l'équipe est en forme, les athlètes sont en jambes. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils mouillent les maillots pour que la victoire revienne aux Congolais. Ça fait un bon moment que la République démocratique du Congo est passée à côté de la victoire. Voilà encore la manivelle. Le temps est là, la chance nous est offerte pour que l'on puisse gagner et pourquoi pas lever le deuil, si je peux me permettre cette expression. Et déjà ici à Mouledik, Mouledik c'est une ville sportive. L'on peut voir depuis mercredi dernier les jours de réunion des clubs tout puissant Mazembe ici, des drapeaux dans la plupart des 1112 avenues de Mouledik. C'est vous dire que tout le 1 million de Congolais habitant Mouledik sont derrière les corbeaux congolais pour les pousser afin que nous puissions arriver à la victoire.
Nous souhaitons alors bonne chance au tout puissant Mazembe de la RDC dans cette campagne africaine. Nous passons maintenant au premier thème de cette soirée qui concerne le projet de budget 2016. Alors, ce projet de budget exercice 2016 présenté et défendu lundi par le Premier ministre Matata Ponyo a été jugé recevable et envoyé à la Commission économico-financière pour toilettage. C'est un projet de budget en baisse de 7% par rapport à celui de 2015, mais réaliste selon le Premier ministre au regard du contexte économique et politique particulier dans lequel il est élaboré. Le vote des députés a eu lieu mercredi après la réponse du patron de la primature suite aux questions. Des précisions avec vous, Dieudonné Nyangassa.
C'est un budget équilibré en recettes et en dépenses chiffré à 8 437,4 milliards de francs congolais. Il présente une régression de 7% par rapport à celui de 2015, lui chiffré à 8 496,3 milliards de francs. La principale cause de cette régression, la baisse des cours de matières premières dont la RDC est productrice et exportatrice. Le prix de la tonne métrique du cuivre, par exemple, est passé de 7 000 dollars à aujourd'hui 5 000, avait fait savoir le Premier ministre. Le baril du pétrole se vend actuellement à 47 dollars contre 110 au début de l'année en cours. La suspension de production par KCC pour 18 mois, KCC qui produit à elle seule 15% du total de la production minière de la RDC, ferait perdre au trésor plus de 200 milliards de francs congolais, a dit Matata Ponyo. En outre, 80,4% de ce budget seront mobilisés localement et 19,6% d'apports extérieurs. Autre contrainte dans l'élaboration de ce budget, la prise en charge des élections prochaines et la mise en place des nouvelles provinces issues du démembrement. Le gouvernement a retenu 6 axes prioritaires pour le budget 2016. Parmi ces priorités, la finalisation des réformes institutionnelles pour 33,3%. Celle-ci prendra en charge, entre autres, l'organisation des élections et la mise en place des nouvelles provinces. La consolidation du cadre macroéconomique, l'accélération de la croissance, la création des emplois pour 29%, le renforcement du capital humain, l'initiation à la nouvelle citoyenneté pour 0,7%. Le projet de loi des finances 2016 envisage également des mesures fiscales et parafiscales rigoureuses pour lutter contre la fraude douanière, l'évasion fiscale et la corruption qui sont aussi à la base du coulage des recettes publiques.
Merci Dieudonné Nyangassa. Et si vous nous avez pris en cours, sachez que la tribune de presse ce soir reçoit Félix Kabouizi, journaliste au quotidien La Référence Plus, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa, Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, une télévision qui émet à Kinshasa, et Ali Boukassa, journaliste à la radio communautaire Toutante, une radio qui émet à Mweneditu. Nous sommes là dans la province de Lomami. Félix Kabouizi, quelle lecture vous faites de ce projet de budget 2016 ?
Bon, je crois que c'est la même lecture qu'on a l'habitude de faire chaque fois que le gouvernement s'adonne à cet exercice. C'est de constater qu'il s'agit toujours d'un budget modique et qui n'est pas à la hauteur vraiment des aspirations des Congolais.
C'est ce qu'a relevé d'ailleurs l'ex-gouverneur Mbaki.
Oui, tout à fait. Parce que 8 ou 9 milliards de dollars pour la RDC, c'est complètement insignifiant. Donc il va falloir qu'un jour les dirigeants de ce pays arrivent vraiment à trouver les voies et moyens pour booster le budget de manière à rencontrer les vraies attentes de nos populations.
Mais est-ce que vous êtes en même temps d'accord avec le Premier ministre quand il affirme que ce projet de budget a été élaboré dans un contexte difficile?
Oui, bien sûr que oui, puisque comme le confrère l'a dit tout à l'heure, nous nous trouvons dans une situation de baisse du cours des matières premières et vous savez que notre budget est très largement dépendant, n'est-ce pas, du secteur minier. Et lorsque le secteur minier connaît des difficultés, et tout naturellement, le budget ne peut qu'en ressentir. Sauf que je voudrais quand même dire qu'il y a ces prévisions budgétaires, mais il y a aussi le budget en termes de réalisation. Mais là, il faudrait toujours constater que même Matata n'arrive pas à réaliser son budget tel qu'il le prévoit. Généralement, le budget est réalisé peut-être à 60, 70, 80%. Donc tous les 3-4 budgets qu'il a présentés n'ont jamais été réalisés à 100%.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture que fait Félix?
Oui, d'accord avec lui. Quand il reconnaît que ce projet de budget a été élaboré dans un contexte de morosité, quand on connaît la dégringolade du cours des matières premières, l'aîné Félix reconnaît que l'économie internationale...
Ça fait 7% de régression, en fait.
Oui, 7% de régression, et ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, et il faut noter que ça ne sert à rien d'avoir un budget de 15 milliards, un budget de 16 milliards, dont on ne sera pas à mesure de démobiliser. Je crois que faire un budget est une chose, mobiliser les recettes en est une autre. J'ai salué ces derniers temps les efforts qui sont consentis au niveau des services générateurs de recettes pour pouvoir maximiser les recettes et renforcer justement l'économie nationale. Un budget qui nous réserve beaucoup de surprises, surtout cette enveloppe réservée notamment à la réforme administrative, aux élections, à la mise en place de nouvelles provinces. Donc c'est des matières qui n'étaient pas retenues.
Donc, ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que vous êtes optimiste quant à la mobilisation des recettes pour cet exercice, parce que le Premier ministre a affirmé qu'il y aura 80,4% de recettes qui doivent être mobilisées localement. Vous êtes d'accord avec lui?
Je suis totalement d'accord avec lui. Je voudrais que les services générateurs de recettes, ces services ont des contrats de performance qu'ils signent. Et certaines agences sont même récompensées pour certains efforts qu'ils fournissent dans l'essence de renforcement ou si vous voulez de la maximisation des recettes. Je voudrais également qu'il y ait un œil largement ouvert sur toutes sortes de détournements et que ceux qui produisent suffisamment des recettes soient récompensés.
Donc si on vous comprend bien, les 80% ce sera facile pour les mobiliser, en même temps le gouvernement attend 20% des apports extérieurs. Vous êtes d'accord avec
C'est un défi qu'on s'élance et Matata sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur et il a intérêt à pousser ses services, à pouvoir mobiliser ses recettes. Il a intérêt à pouvoir booster davantage lui-même. Il sort du monde économique, il connaît comment les choses marchent, il connaît quoi faire pour que ses services générateurs de recettes soient à la hauteur.
Mais Félix l'a dit, depuis 3-4 ans, le Premier ministre n'arrive pas à réaliser les 100% des projections budgétaires.
Ce qu'on oublie, c'est que ce ne sont que des prévisions. Ce ne sont que de prévisions. Le fait que, d'ailleurs, pour l'année 2015, qu'on arrive au-delà des 60%, c'est déjà assez notable parce que déjà à la mi-janvier, février 2015, l'économie internationale était déjà par terre avec la baisse, la dégringolade du cours des matières premières.
Voilà. Ali Boukassa, vous, comment vous avez analysé le projet de budget 2016 plutôt?
Bon, d'abord, c'est un dossier presque marronnier. Ça arrive, comme on dit dans le jargon, chaque fois à une certaine période. Ça n'aimait pas. Ici, à Bolivie, tout est pratiquement ça rentre dans le cadre de ce qui est générique, folklorique et tout. Madame Pogno a passé sa visite à l'Assemblée nationale. On ne s'attendait pas à la situation contraire. Dis-moi ce qui est positif, c'est que c'est vite passé, ça s'est un peu bien passé parce que nous vivons un contexte qui est tout particulier. Il ne fallait pas qu'on rentre dans la logique du chaos, de bloquer les choses et tout le reste. Mais ça s'est très bien passé. J'aime encore que ce budget ait clairement dit qu'il y a des fonds, qu'il y aurait des prévisions budgétaires pour financer les élections. Ça, c'est une chose. Mais là où je reste à ma soif, c'est que le Premier ministre n'a pas dit quel type d'élection. Ce serait mieux aussi qu'il apaise les Congolais, les millions de Congolais qui attendent que l'on dise en 2016 les 580 millions de dollars, c'est pour quelle élection. Je crois bien que même c'est pas tard, même demain après-demain, il pourrait avoir une occasion pour apaiser les Congolais sur ce plan-là. Bon, quelle analyse j'en fais aussi, c'est que à travers ce budget, ce projet de budget, le gouvernement n'a pas traduit ses ambitions de pousser plus loin notre budget. Parce que si vous remarquez, il y a peu, on parlait des cas de détournement dans trois secteurs seulement de la vie en République démocratique du Congo et seulement pour la ville province de Kinshasa. C'est que si on a des ambitions, on dit par exemple il nous faut un budget d'au moins 10 milliards de dollars. On peut y arriver en bouchant les trous. Mais quand on dit le contexte international, les cours de matières premières ont chuté et j'en passe, je crois qu'on se décourage, on ne se motive pas, on ne se dope pas. C'est là que, à mon avis, Matata Pogno avec toute sa suite aurait péché. Et puis, je dis encore, quand on dit que le contexte international ne le permet pas, le contexte national n'est pas à notre faveur, mais notre gouvernement doit apprendre à créer des ressources. Il ne faut pas seulement compter sur les matières premières.
Mais Ali, c'est peut-être pour ça qu'il y a 80% des recettes qui seront mobilisées localement au lieu de compter toujours sur les apports extérieurs.
Oui, mais les 80% de combien? C'est là mon problème. C'est l'enveloppe totale. Quand on dit 80% de 8 milliards, de 9 milliards, c'est quoi par rapport à la République démocratique du Congo? Berry Franklin, je vous dis, à l'heure que nous présentons cette émission, il y a plus de 6 000 Congolais, patriotes, refoulés d'Angola, qui vivent dans des conditions pénibles du côté du territoire de l'UNU, beaucoup plus dans l'interland de la de Wikong, à 130 km d'ici, de Mouneditou. Si vous voyez ces familles, ces Congolais, dans quelles conditions elles vivent, vous pourriez changer de langage. Et parmi ces Congolais, il y a plus de 200 enfants à l'âge scolaire qui souffrent, selon la Caritas Louise, à partir orientale ici à Mouneditou. Et jusque-là, ils n'ont pas encore l'assistance du gouvernement congolais. C'est pourquoi je vous dis, c'est vrai que le contexte est ce qu'il est, mais le gouvernement congolais se serait bien comporté en poussant un peu plus loin. Vous imaginez que les prévisions budgétaires soient au-delà de 10 milliards et que l'on n'arrivait à faire la 80% comme on le dit. Ce serait une très bonne chose.
D'accord. Alors, on l'a souligné ici, 33% de ce budget sera affecté aux nouvelles provinces et aux élections. Est-ce que vous pensez qu'avec ce budget qui est revu à la baisse, on ira aux élections dans les délais constitutionnels, Félix?
Les élections sont un impératif constitutionnel. Je pense que le gouvernement a bien fait de prévoir un budget conséquent.
Et Ali a posé la question de savoir les 580 millions de francs congolais, c'est pour quelles élections?
Bon, évidemment, selon l'esprit et la démarche du gouvernement, c'est l'ensemble du cycle électoral, donc l'ensemble de ces élections...
Mais la CENI a demandé plus d'argent que ça.
Oui, la CENI a demandé plus ou moins 1 milliard. Bon, le gouvernement lui en donne 500 millions, mais il y a eu quand même quelques paiements hein, qui ont été faits autour de plus de 100 millions. Bon, il est possible peut-être que nous ayons pour cela aussi une assistance internationale. Il est possible aussi peut-être que le gouvernement revoie à la baisse, n'est-ce pas, le nombre des élections à organiser. Et je crois que la meilleure politique aurait dû être, n'est-ce pas, d'échelonner tous ces paiements sur l'ensemble des 4 années. Mais bon, on ne comprend pas pourquoi depuis 2012 rien n'a été prêt. Il y avait toujours de l'argent prévu mais jamais décaissé. Donc c'est ça malheureusement le comportement quelque peu incompréhensible du gouvernement. On attend financer les élections à la dernière année avec tout ce que cela comporte comme stress, n'est-ce pas, par rapport aux échéances prévues. Bon, voyons voir comment les choses vont se passer, mais je pense que le gouvernement n'a absolument pas d'autre choix. Il faut absolument financer les élections.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, 583 millions pour quelles élections? Mais ça fait 33% de budget qui est... Ça fait 33% de budget qui sont réservés pour les élections et les installations des nouvelles provinces. Est-ce que ce n'est pas très peu?
Je crois que le gouvernement ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il a en mesure de produire, au-delà de ses efforts. Il ne pouvait pas donner un budget ou des chiffres qu'il ne sera pas en mesure de mobiliser. C'est vrai que l'ensemble du cycle électoral nous demande au-delà des milliards, donc 1,4 milliard de dollars. Le gouvernement propose à peine presque la moitié de ce qui est attendu, même s'il faut reconnaître que bien avant, d'autres montants avaient été décaissés pour permettre à la commission électorale de faire un certain nombre de choses. Alors, va-t-on avec ces montants organiser toutes les élections quand on sait que l'année 2016, c'est une année éminemment électorale? C'est la question que je me pose, mais je crois savoir qu'elle pourrait trouver la solution au prochain dialogue politique, parce que il faut reconnaître qu'au niveau de la commission électorale, tout ou presque est à refaire avec le calendrier électoral. Ouais. Il faudra trouver un calendrier qui soit réaliste et qui tient compte aussi bien de délais constitutionnels que des réalités économico-financières du pays, sans oublier que nous pouvons toujours avoir l'aide de partenaires internationaux. On en connaît qui se sont pointés, qui se sont proposés pour pouvoir nous venir en aide. Donc je crois que c'est des questions qui peuvent trouver solution au cours du prochain dialogue politique. Je ne pense pas que ça revient à Matata Ponyo de prédéfinir les types d'élections qu'on devra organiser pour quel type de montant. D'abord, les élections, c'est une affaire de la commission électorale. Il ne revient pas au gouvernement de fixer sur les élections à organiser. Donc, je crois que la question reste encore pendante. Le montant proposé ne correspond pas aux besoins au niveau de la commission électorale. On devra aussi attendre l'arrivée du prochain patron de la centrale électorale qui est censé, lui aussi, opérer un certain nombre une restructuration de sa structure, revoir les coûts même de ces élections, proposer les plus prioritaires et un montant qui soit facilement finançable.
Ok. Alors, Ali Boukassa, je comprenais que dans votre intervention, vous estimiez que ce budget, les 33% réservés aux élections et aux nouvelles provinces n'est pas réaliste. Quelle est, selon vous, la piste pour qu'on arrive, pour qu'on tienne toutes les élections dans les délais constitutionnels et pour qu'on installe les nouvelles provinces? Ali, vous êtes avec nous? Bon, la réalisation me fait signe qu'on va le reprendre dans quelques instants, mais le temps pour nous de passer à notre deuxième thème déjà, parce qu'il nous reste moins de temps, qui concerne la nomination des commissaires spéciaux, une nomination qui est intervenue hier jeudi. C'est le président de la République qui a nommé les commissaires spéciaux et leurs adjoints pour administrer provisoirement les nouvelles provinces. Leurs noms ont été rendus publics par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, et selon l'ordonnance, il s'agit d'un cas de force majeure vu l'impossibilité d'organiser dans les délais légaux et constitutionnel l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette mesure transitoire exceptionnelle vise à pallier la carence des autorités provinciales, d'assurer la continuité et le maintien de pouvoirs publics et de faire régner l'ordre et la sécurité dans les nouvelles provinces. Les noms des titulaires, avec vous, Jean-Didier Gobani.
Bajouele, Anthony Yenga. Équateur, Roger Mwamba Mumbenza. Okatanga, Félicien Katanga Lokunda. Olomami, Raymond Mande Mutumbu. Otuele, Célestin Bondomissou. Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka. Kasai, Marc Manyanga. Kasai Central, Alex Kande. Kasai Oriental, Alphonse Ngoi Kasanji. Kwango, Larousse Kabula Mavula. Kwilu, Mbala Mbala Kasungu. Lomami, Patrice Kamanda. Lualaba, Richard Mouyej. Maindome, Jantiningo Bilambaka. Mongala, Marceline Mondjiba. Norubangi, Marie-Thérèse Ngerengbo. Sankuru, Betondo Ulungu Ekunda. Sudubangi, Robert Kolonga. Tanganyika, Richard Ngoi Kitangala. Chopo, Jean Epele. Chuapa, Cyprien Loboto.
Merci beaucoup Jean-Didier Ogobani, notre confrère de la rédaction web de Radio Kapi, Félix Kabouizi. Comment vous analysez toutes ces nominations?
Bon, il faut dire que il s'agit d'une nomination qui a posé beaucoup de problèmes de compréhension au niveau de la classe politique. Beaucoup d'acteurs politiques ont estimé, avec raison je crois, que nommer les gouverneurs intérimaires, même si on les appelle les commissaires spéciaux, n'étaient pas de la compétence du chef de l'État. Le chef de l'État, constitutionnellement, n'a pas du tout le pouvoir de nommer. Et bien, évidemment, on a trouvé le raccourci en faisant intervenir la Cour constitutionnelle. Mais même à ce niveau-là, beaucoup de juristes aussi ont émis beaucoup de réserves par rapport à cette décision de la Cour suprême.
Mais le président justifie ses nominations par le cas de force majeure, vu l'impossibilité d'organiser dans les délais légaux et constitutionnels l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je crois que ça, c'est le terme que la Cour constitutionnelle a utilisé, mais évidemment en se basant sur l'argument financier, parce que le gouvernement n'a pas été en mesure de mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI. Le gouvernement a argué que ces élections n'avaient pas été budgétisées, donc on ne peut pas vraiment raisonnablement parler de cas de force majeure.
D'où la question que l'on peut se poser, de savoir pourquoi avoir démembré alors qu'on n'a pas d'argent.
Voilà, on a beaucoup discuté de tous ces problèmes-là et on s'est même rendu compte que ce découpage-là a été fait de manière totalement précipitée. Et voilà, on se retrouve devant ce que eux ils appellent un cas de force majeure, alors que c'est des situations qu'on aurait pu prévoir. Alors le deuxième commentaire que je voudrais faire par rapport à cela, c'est que cette nomination-là constitue un recul démocratique très grave pour le pays. Rappelez-vous que en 1997, lorsque l'AFDL est arrivé, c'est à ce moment-là qu'on a plus ou moins expérimenté, n'est-ce pas, l'exercice démocratique. L'AFDL ne pouvant pas organiser les élections en bonne et due forme, rassembler, n'est-ce pas, les populations dans les villes, dans les chefs-lieux des villes, et ont procédé à des élections directes. Et c'est comme ça que l'AFDL a mis en place tous les gouverneurs dans toutes les régions au fur et à mesure qu'il prenait des villes, n'est-ce pas, et qu'il avançait vers Kinshasa. Et en 2006, on a expérimenté, n'est-ce pas, l'élection des gouverneurs. Voilà qu'aujourd'hui, on arrive aux nominations. Et quand vous constatez ces nominations-là, en lisant, on voit tout de suite qu'il y a trois ou quatre messieurs qui se sont mis ensemble pour placer leur pion. Mouyej, ça c'est certainement quelqu'un que le président a placé. Guérengo, ou bien Alphonse Ngoï Kassanji, Alex Kandé, et ainsi de suite. Il y a déjà que le responsable de l'AMP a placé, et ses amis députés. Hein. Il y a aussi des gens, probablement, que Boshab a placé. Est-ce que ça, c'est vraiment démocratique? Et quelles vont être les relations entre ces commissaires spéciaux avec les assemblées existantes?
Tout d'où la question de savoir où allons-nous avec toutes ces nominations?
Non, on va justement vers un chaos constitutionnel. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a d'un côté des gens qui sont nommés et de l'autre des gens qui ont été élus, qui jouissent encore de la légitimité, mais qu'ils ne peuvent pas contrôler les commissaires spéciaux. Voilà, c'est un recul.
Alors Jean-Pierre, comment vous analysez ces nominations? Vous êtes d'accord avec Félix quand il dit que nous sommes dans une cacophonie là?
Bon, cacophonie, non. Ici, le gouvernement a juste essayé de mettre en musique l'arrêt de la Cour suprême constitutionnelle, plutôt, qui a donné injonction au gouvernement de pouvoir prendre des mesures transitoires.
Et vous partagez cette avis.
Exceptionnelles au regard de difficultés financières constatées au niveau gouvernemental de pouvoir organiser les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs de provinces démembrées. Le plus important, c'est qu'on ne pouvait pas laisser un vide juridique ou des provinces démembrées sans responsable pour pouvoir les gouverner. Disposition transitoire, c'est-à-dire que c'est une disposition qui va passer un jour, qui ne va pas s'éterniser.
Puisque c'est un cas de force majeure, est-ce que finalement en 2016 on ne risque pas de tomber aussi dans le même cas de force majeure en ce qui est d'élection présidentielle?
Je ne voudrais pas anticiper. Est-il que je sais que pour ce qui est des élections présidentielles et consorts, c'est des élections dont les dates sont connues dans la Constitution, et que les moyens sont en train d'être mobilisés au niveau du gouvernement pour doter à la commission électorale les moyens de sa politique justement pour relever les défis. Je ne voudrais pas qu'on compare les deux situations qui sont tout à fait différentes. Tout ce que nous on veut ici, c'est que l'aîné Kabouis parle des pions qui ont été pistonnés par tel ou tel autre. Moi, je vois plutôt la compétence de ceux qui ont été nommés.
Mais en même temps, il n'y a aucun membre de l'opposition dans ces nominations.
Ici, je ne voudrais pas trop parler de
la majorité
politique. Kande Mupompa n'est pas de la majorité. Kande est de l'opposition. Il fait partie de la plateforme ADER de François Mamba qui est un opposant. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Donc, ils ont des défis à relever. C'est vrai que ils ne vont pas composer de gouvernement. Il n'y a pas des cours d'appel et consorts, les processus prévus dans la loi des finances.
Vous êtes d'accord avec Félix quand il affirme que nous sommes dans un recul de la démocratie par rapport à 1997.
Mais on vous oppose cet argument de force majeure. On vous oppose l'argument de force majeure et ça se comprend. C'est des situations qui peuvent arriver et qui vont passer.
D'accord. Ali Boukassa, comment vous avez accueilli la nomination de ces commissaires spéciaux et leurs adjoints chez vous à l'OMAMI?
Merci beaucoup de la précision et merci à la technique de me retourner la tribune. Berry, si on m'a dit tout, que là, c'est beaucoup plus l'ambiance positive à la suite de la publication de cette ordonnance du président de la République nommant les commissaires spéciaux. Beaucoup plus ici, à mon avis, tout, c'est au sujet de la nomination de l'un de leurs, en la personne de Patrice Samanda Kibango, qui est un fils du coin. Et voilà, ça justifie qu'il y ait de la fête ici, à mon avis, tout. Peut-être les minutes, les jours qui vont suivre pourront nous donner un peu d'éléments d'analyse par rapport à cette situation. Mais quant à répondre à chaud, je vous dirai que l'ordonnance du président de la République est très bien accueillie ici à mon avis.
D'accord, mais en même temps, si vous avez suivi Félix, il a affirmé que dans les milieux politiques, on affirme que le président de la République a violé la Constitution avec ses nominations. À votre niveau, est-ce que vous partagez cet avis?
Je pourrais dire seulement que le président de la République n'a pas le pouvoir de nommer des gouverneurs. Ici, la majorité a joué sur les jeux de mots. Au lieu des gouverneurs, on parle des commissaires spéciaux.
D'accord.
Les commissaires spéciaux sont catégorisés sur la liste des hauts fonctionnaires administratifs, comme me disait quelqu'un de la majorité.
D'accord. Alors, Ali,
ce point-là.
Oui, rapidement, Ali, parce qu'on a, on a moins de 2 minutes.
Allons à l'article 69, alinéa 3, où il est dit le président de la République assure par son arbitrage le bon fonctionnement et ainsi de suite.
D'accord.
À l'article 81, alinéa 4, le président de la République nomme les hauts fonctionnaires de l'administration publique.
Ok, Ali, pour conclure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Ali, on n'a pas beaucoup de temps.
Je vous parle aussi des prisonniers de Mouledi Touki depuis
depuis 14 mois n'ont pas à manger.
Ali, s'il vous plaît, on va conclure cette émission parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste moins d'une minute. Rapidement, alors, comment va se faire le contrôle de l'administration congolaise lorsque vous avez d'une part les gouverneurs et les assemblées provinciales telles que l'a évoqué Félix et d'autre part les commissaires spéciaux et leurs adjoints sans gouvernement provincial? Rapidement, Félix.
Non, je crois que le dispositif tel qu'il est mis place les commissaires spéciaux sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Ils ne seront absolument pas contrôlés par les assemblées et c'est là où c'est complètement dommage pour notre pays.
D'accord. Alors, Félix, Jean-Pierre, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Oui, les commissaires ne sont pas une émanation de parlementaires et donc ils ne dépendront pas de leur pouvoir. Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui aura la même mise sur eux, comme ce fut le cas avant les élections de 2006.
Merci et c'est la fin de cette tribune de la presse. Patrick Yassongo a été aux commandes techniques. Alain Rung a coordonné cette émission sous la supervision de Pélé Kipé Lamondo. Derrière ce micro, c'était Béry Franklin-Louchaka qui vous a accompagné. Je vous fixe rendez-vous le vendredi prochain, même heure et même fréquence. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site www.radiocapi.net. N'oubliez pas, remarques et suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à dec@radiocapi.net.